nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Qu'elle se bat. Peut-être qu'elle a raison. Alors il réfléchit plus à son travail, se penche plus à ses dossiers et recommence à travailler sérieusement. Il se dit comme sa femme qu'il leur apporte aux gens plus de choses pour le bien, leur bien-être, en les faisant vivre dans des villes plus belles, plus modernes, qui ont plus de sécurité, etc. Cela le passionne et veut des villes de plus en plus belles, modernes et agréables. Sécuritaire aussi. Les jours passent. Les jours passent. Pour créer des surhommes, des hommes qui sont au-dessus de tous, on essaie pour qu'ils puissent devenir, leur donner l'immortalité, on va sélectionner des enfants qui doivent avoir un physique parfait, grand, mince, distingué, aucune malformation ou maladie, clair et blond. Ils doivent avoir une intelligence au-dessus de la moyenne, être en avance sur leur âge. ils doivent avoir la distinction naturelle, une grâce innée, et la distinction en plus de l'éducation qui n'existe presque plus. Cette distinction de l'éducation et l'éducation qu'elles doivent avoir et qui ne peut se faire dans une classe où les autres élèves ralentissent leurs élans, et apprendre, c'est que l'enfant aille de l'avant. Donc, ces éducations se feront dans des établissements spécialisés pour eux.
Voici la lourde nappe et la profonde houle et l'océan de blé et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape et voici votre voix.
Où ils apprendront pleine,
et nos amis absents et nos cœurs dépeuplés.
Les cours.
Voici le long de nous nos points désassemblés et notre lassitude
classique, mais plus rapidement et plus complet.
Voulez-vous nous rappeler qui était Charles Péguy?
Le savoir général,
il a
la culture, le sport.
C'est par la fin.
En sortant de ces établissements, ils seront
pas bêtement
des hommes complets, sachant vivre dans la société.
Et vous, Monsieur Bonneau,
ils seront embauchés.
Non, monsieur, et je m'appelle Bonnet.
De suite, dans le groupe Tremblant Jeune Tout Pontois,
pour vous remettre dans
pour être des cadres.
Vous allez commenter les deux premières strophes du poème. Vous avez une demi-heure.
Ces enfants sont sélectionnés dans les écoles au cours de visites médicales. Le médecin doit prévenir l'établissement qu'il y a dans l'école un enfant ou plusieurs enfants très intéressants.
Est égal à la somme des deux autres, BC plus
le professeur ou l'établissement doit lui aussi prévenir le groupe Jeune Tout Pontois.
On sait que les tangentes à un cercle issu d'un point sont égales.
Bien. Faut que le service donc, de recrutement est prévenu.
Petit A et petit A.
Oui.
B. On vient voir l'enfant, B. On l'examine.
Bien.
On lui fait faire des examens.
C. Un petit C.
Oui.
Et D.
Et on voit
D.
S'il est scolairement
A, B plus C, D.
Intelligent.
Tu crois?
Puis si tout va bien, l'on prévient les parents de leur proposer de le mettre dans un établissement gratuitement, éduqué, nourri, logé, habillé, et plus tard embauché dans le groupe. Si les parents acceptent, interdiction d'aller le voir, pour qu'ils ne soient pas troublés par l'extérieur, la vie extérieure. Et pendant les vacances, les parents doivent le surveiller pour qu'il ne fréquente pas n'importe qui et ne fasse pas n'importe quoi. L'enfant doit obligatoirement faire toute sa scolarité dans l'établissement. Bien entendu, à l'époque où l'on se trouve, les gens acceptent l'offre. Pensez, un enfant a moins à s'occuper et en plus, plus tard, il aura un métier qui pourrait se permettre de refuser une chose pareille.
C'est intelligent, mais un tantinet prétentieux. Vous écrivez par exemple, Charles Péguy voit la cathédrale comme un phare grandiose et généreux.
Allez à votre place.
Où t'étais?
Siron, 12. Où êtes-vous allé chercher qu'il y a des péniches au milieu de la brousse?
Le canal de la Foussa, monsieur. J'y étais en vacances.
Bonnet, je vous ai mis 13,5. Bon travail, sensible et bien écrit. Quentin, vous allez avoir de la compétition.
Voici la lourde nappe et la profondément se chape. Et voici votre voix sur cette lourde plaine et nos amis absents et nos cœurs dépeuplés. Voici.
Gilbert vit toujours dans l'hôtel que son père lui a offert. Il n'a plus de visites étranges ni de bruits bizarres, mais il se tient sous ses gardes. Julien retourne le voir chez lui et le soir, il passe la soirée à regarder des films DVD ou à parler de tout et de rien. Ils sont au salon, devant la cheminée qui pétille. Un soir, Gilbert se dit, je me demande, c'est pourquoi les insectes, bactéries, qui ont une vie très courte, ne mutent pas plus vite que les autres. Que les autres, qui ont, les autres espèces qui ont une vie plus longue. On a même l'impression qu'ils ne mutent pas, ou presque pas. Ou presque plus. Ou plus lentement que les autres. L'impression, c'est que pour certains, la vie s'est stabilisée d'une façon définitive et ne mute plus du tout. Peut-être que leur vie trop courte les empêche de muter, qu'il n'est pas le temps de le faire, et que ça ne les gêne pas de ne pas muter. Les jours passent. Charlotte a de plus en plus peur qu'on la fasse chanter. Elle n'a confiance en personne, refuse toute relation, s'enferme chez elle. Elle n'ose plus même faire ses soirées. Son mari, Maurice, la trouve étrange, bizarre. Il lui dit, vous devriez sortir un peu, voir du monde. Elle lui dit, non, j'aime mieux être tranquille chez moi. Il lui dit, je vous trouve changé, fatigué, maigri. Vous devriez vous distraire un peu mieux. Pourquoi ne faites-vous plus de vos soirées? Elle lui dit, vous en avez besoin, peut-être pour votre travail? Non, mais pour vous, peut-être, elle lui dit, non, pas la peine, j'ai besoin de calme. Le matin, lorsqu'il se lève, elle est encore dans sa chambre, au lit. Il prend son petit déjeuner seul et part sans la voir. C'est que Charlotte aime rester au lit et s'y sent en sécurité. Leur soir, il la retrouve, elle est toujours dans un fauteuil. Pour le dîner, elle grignote. Vous n'avez pas faim? Non. Merci, mais ça va. Et le soir, elle se couche tôt. Vous êtes fatigué? Non, ce n'est rien. J'ai sommeil, c'est tout. Vous devriez voir un médecin. Je ne suis pas malade. Maurice, inquiet, convoque le maître d'hôtel et la femme de chambre dans le salon. Il leur demande, dame durant la journée. Le maître d'hôtel lui dit « Madame reste dans sa chambre et se lève à 17h pour se préparer pour vous voir. » La femme de chambre lui dit « Oui, madame. Monsieur, madame, et je lui prépare son bain. »«
Bien, merci. Surveillez-la, elle ne me semble pas bien. »
Le lendemain, pendant le dîner, il lui demande
« Aujourd'hui ?»
Elle lui dit « Rien d'intéressant. » Il lui dit
« Tu sembles ne plus avoir d'intérêt à rien. Tu me parles même pas, me demandes même pas si je fais bien mon travail. »
Elle lui demande « Tu le fais mal ?»
Non, ne te fais pas de soucis, tout va bien. Ne te fais pas de soucis, je te promets que je m'occupe bien de mes affaires, que je les fais comme il faut. Mais toi, tu devrais penser un peu à toi, à ta santé.
Elle lui dit, je vais très bien. Il lui dit,
on ne le dirait pas, tu as une tête à faire peur.
Elle lui dit, c'est vrai. Il faut que j'aille au coiffeur.
Il lui dit, tu ferais mieux si t'allais voir un médecin.
Qu'est-ce que tu veux qu'un médecin fasse pour moi? J'ai besoin de beaucoup de peine, il essayera mieux.
Dans l'après-midi, de son bureau, il téléphone au médecin.
Allô, docteur Dutour, je suis monsieur Franblanc.
Bonjour monsieur Franblanc, comment allez-vous?
Il lui dit, moi ça va bien, mais j'ai ma femme qui n'est pas bien.
Qu'a-t-elle?
Eh bien, elle maigrit. Rien ne l'intéresse, elle reste toute la journée au lit.
Le médecin lui dit, je vois, elle fait une dépression nerveuse. Vous avez bien fait de m'appeler.
Maurice lui dit, pouvez-vous, vous, aller la voir pour vous en occuper?
Oui, bien sûr, j'irai cet après-midi.
Parfait, mais elle ne voit voir personne. Surtout pas un médecin. Et si vous pouviez jouer la comédie pour que vous veniez la voir pour une aide quelconque pour les pauvres.
Oui, je comprends. Ne vous faites pas de soucis. Je vais lui jouer la comédie.
Bien. Et téléphonez-moi pour me dire ce que vous en pensez.
Oui, bien sûr.
Au revoir, docteur.
Au revoir.
À 15h, le médecin va sonner au portail de la maison des Franblancs.
Oui. Bonjour, je suis le médecin Dutour et j'aimerais voir votre maîtresse. Dites-lui que ce n'est pas pour une consultation, mais pour une aide, une quête.
Bien, monsieur. Je vais voir si madame peut vous recevoir.
Et le maître d'hôtel a compris que le médecin Elle voit sa maîtresse malade, mais puisqu'elle ne peut voir médecin, il joue la comédie. Il monte à la chambre de sa maîtresse. Frappe à la porte. Oui, madame, il y a le médecin du tour qui désire vous voir pour une quête. Elle est au lit, défaite. Elle se dit, il vient sûrement me voir pour voir comment je vais. Je dois le recevoir parce qu'il va penser que je suis dépressive. Bien, je le reçois. Faites-le attendre dans le petit salon. Je me prépare.
Vite, elle se lève.
Enlève sa chemise de nuit. Se parfume, se maquille, se coiffe bien, va prendre une robe d'intérieur, crème, qu'elle se met et sort de la chambre. Aller au petit salon. Elle entre. Le médecin est déjà là. C'est un grand homme, blond, mince, beau, visage dans les 35 ans, habillé d'un costume gris. Elle va près de lui avec le sourire et lui dit « Bonjour docteur, quel plaisir de vous voir. Bonjour madame, j'espère que je ne vous ennuie pas en venant comme ça. Non, pas du tout. Je suis enchanté de vous voir. Allons nous asseoir. » Et le fait asseoir dans un fauteuil et elle se met en face de lui. Et lui demande, vous avez quelque chose à me demander? Oui, c'est une quête, une collecte plutôt, que nous faisons pour les quartiers de Paris qui sont en difficulté, pour que les gens aient un peu de quoi se nourrir et se chauffer. Pouvez-vous? Elle lui dit, oui, bien sûr, bien entendu. Il lui dit, merci beaucoup madame, ce n'est rien. Il lui dit, vous devez être très pris en ce moment. Elle lui dit, oui, assez, il faut beaucoup recevoir à cause de mon mari et ses affaires. Cela vous fatigue pas trop? Non, pas du tout. Vous n'avez pas été fatigué ces derniers temps? Elle lui dit, elle se dit, voilà qui joue les docteurs maintenant. Il lui dit, mais je m'excuse, je n'ai pas ma carte. Elle sourit, lui voit qu'elle est détendue, qu'elle est tendue dans un fauteuil, elle est raide, elle n'a pas son dos appuyé sur le dossier. Ses mains sont crispées, ses jambes serrées et dures comme du bois. Le visage a un sourire très crispé. Il se dit qu'elle doit être très tendue. Il voit que son rouge à lèvres déborde légèrement sur la lèvre à gauche, ce qui lui démontre qu'elle s'est précipitée pour se préparer et pour le recevoir. Il lui dit, moi pour me détendre, je prends un bain. Elle lui dit, moi c'est une douche. Il se lève et lui dit, bien, je vais vous laisser. Elle dit, oh, pour la quête, attendez. Elle se lève et sort de la pièce. Précipitamment, puis revient. Faut que je vous presse, donne la carte. Tenez. Elle lui tend et lui dit, je m'excuse, mais j'ai oublié mon écran. Elle lui dit, ma foi, tant pis, vous reviendrez. Je vous accompagne. Et ils sortent du salon. Ils sortent de la maison. Une fois dehors, la lumière du jour lui fait mal, ce qui prouve qu'elle n'a plus l'habitude de sortir. Il la mène jusqu'à sa voiture. Elle marche difficilement. Il ouvre la portière de sa voiture et lui dit, oh, c'est mon écran. Vous allez pouvoir me donner l'argent. Il lui tend son écran et elle met la carte dessus et crée un chiffre. Il lui rend son écran et lui dit, merci et à bientôt. Oh non, je vais vous raccompagner jusqu'à la porte de chez vous. Il la raccompagne jusqu'à chez elle. Merci docteur, au revoir. Et il la quitte. Il retourne à sa voiture et entre dans sa voiture. Arrivé à son cabinet qui se trouve Champs-Élysées. Il téléphone à Maurice. Fait le numéro. Allô? Bonjour, je suis le docteur Tutour. J'aimerais parler à monsieur Franblanc, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Il attend un peu.
Allô? Je suis monsieur Franblanc. Alors, docteur?
Le docteur lui dit, j'ai vu votre femme, comme prévu. Elle m'a bien reçu dans son salon, habillé, mais j'ai remarqué très fraîchement, elle s'était préparée. Je crois qu'elle devait être au lit. Elle s'était préparée pour me recevoir. Maurice lui demande,
alors, comment la trouvez-vous, docteur?
Il lui dit, très nerveuse, crispée. Elle ne doit pas sortir de chez elle.
Dépression, une petite dépression. Je crois que c'est qu'il faudrait changer d'air. Elle a besoin de voir autre chose que Paris. Vous devriez lui faire faire un petit voyage. Maurice lui dit, malheureusement, je ne peux pas m'absenter en ce moment de Paris. Le médecin lui dit, faites-la partir seule. Maurice lui dit, ce n'est pas trop risqué. Ce serait plus dangereux si elle restait à Paris. Maurice lui demande, et si elle ne veut pas partir? Le médecin lui dit, faites-la partir tout de même. Mais j'y pense, vous avez un château quelque part. Oui. Eh bien, dites-lui d'aller pour une chose ou une autre. Vous croyez que le château peut aller?
Oui, c'est tout de même mieux que de rester ici. Un changement de décor, c'est tout de même bien.
Bien, je vais voir. Je vous remercie, docteur.
À votre service, monsieur.
Et il raccroche.
Le soir, lorsque Maurice revient, il va rejoindre sa femme au salon.
Entrez ! Il entre.
Bonsoir. Il va s'asseoir en face d'elle.
Lui demande, tu as passé une bonne journée?
Oui, j'ai eu la visite du docteur Dutour. Il faisait une quête. J'ai donné, bien entendu.
Et comment vas-tu?
Elle essaye de sourire. Je vais très bien, merci.
Il lui dit, j'ai un service à te demander.
Je t'écoute.
Eh bien voilà, pourrais-tu? Parce que moi, je ne peux pas m'éloigner de Paris. Aller au château et surveiller les travaux que j'ai fait faire pour le puits d'évacuation d'eau usé du jardin. J'ai bien peur que les ouvriers n'en fassent qu'à leur aise et qu'ils ne fassent pas des puits assez profonds.
Elle lui dit, je n'y connais rien pour ce genre de choses là-dedans et même rien du tout. Comment veux-tu que je vérifie ces travaux-là?
Il lui dit, tu n'auras pas à surveiller le côté technique de la chose, mais ta présence les forcera à bien travailler. Et puis de temps en temps, tu poses des questions dans le genre, vous êtes sûr que c'est suffisamment profond? La peur de ne pas faire suffisamment profond les forceront à bien faire. Alors veux-tu me rendre ce service?
Elle lui dit, je veux bien, parce que le printemps approche et que nous allons bientôt avoir des arbres en fleurs. Mais je ne sens pas à la hauteur avec les ouvriers, je ne suis pas chef de chantier.
Il lui dit, peut-être, mais tu es la femme du PDG, et c'est beaucoup. Tiens, demande à Gilbert de venir avec toi.
Elle lui dit, tu sais très bien qu'il y a des examens à préparer, et puis il n'est pas tellement le château.
Maurice lui dit, alors tu vas toute seule comme une grande. Et puis, tu as les domestiques, si tu as un ennui.
Elle lui dit, « Bien, je partirai là-bas. Mais on dirait que tu cherches à me faire partir parce que tu as une maîtresse. »
Il lui sourit, lui dit, « Tu sais bien que je n'aime que toi. Je te resterai toujours fidèle. »
Elle lui dit, « Et si tu apprenais que je ne l'avais pas été ?»
Il lui dit, « Toi, jamais. »
Elle lui demande, « Pourquoi ?»
Il lui dit, « Parce que tu m'aimes. »
Elle lui dit, « Merci, ça me touche beaucoup. Mais si un jour, quelqu'un t'apportait la preuve qui semblerait réelle ?»
Il lui dit, « Mais qu'est-ce que tu as ce soir ? Tu veux que l'on passe la nuit ensemble ? Tu sais, c'est permis. Nous sommes mariés. »
Elle lui dit, « J'ai pas besoin de ça pour que tu me prouves que tu m'aimes. »
« Alors ?»«
Rien, je parlais comme ça. Je dois partir quand là-bas ?»
Il lui dit, « Le plus tôt possible, parce que les travaux vont commencer cette semaine. »
Elle lui dit, « Bien, je partirai vendredi. Il faut prévenir les domestiques. »
Il demande, « Pourquoi ?»
Elle lui dit, « Parce que, pour que nous ne voyons pas, pour que nous ne soyons pas surprises de certaines choses, comme cela, nous ne risquons pas de voir des choses désagréables. »
Il lui dit, « Comme tu voudras. »
Elle a prévenu les domestiques qu'elle arrivait vendredi dans la journée. Le vendredi matin, elle est partie en voiture avec le chauffeur. Le voyage se fait sans problème. Le chauffeur était prévenu par le mari que sa femme n'était pas bien et qu'il fallait la surveiller. Se sont arrêtés à une auberge pour déjeuner. L'air, l'excitation du voyage lui a rendu son appétit. D'ailleurs, elle n'a qu'une petite dépression. Arrive au château vers les 21h, les domestiques l'attendaient. Le mari a prévenu le personnel que sa femme, on lui prend ses bagages. Le château est tout illuminé. Chauffé à fond. Il fait vraiment très chaud. Mais le mari a dit que madame était malade. Alors, pour les maladies nerveuses, les gens ont toujours froid et étouffent d'un coup. On l'amène dans sa chambre. la déshabille, lui prépare un bon bain. Il défait sa valise, on lui apporte un repas et on la couche dans son lit bien chaud. Le voyage a épuisé, elle s'endort de suite. Le trou noir. Boris téléphone au personnel pour savoir si elle est bien arrivée. Le maître d'hôtel lui dit « Elle est arrivée et elle est couchée et s'est endormie.
Tout va bien.
Oui, monsieur.
Je peux compter sur vous.
Oui, monsieur. Madame sera très bien soignée.
Très bien. À bientôt. Merci.
Au revoir, monsieur. » Le maître d'hôtel se dit il nous a abandonné sa femme, qui est malade, et pour une plus agréable compagnie. Et nous, malheureusement, nous l'avons, et qu'elle n'est pas très agréable. Le lendemain, c'est le jour qui la réveille. Elle se sent bien, a bien dormi.
Elle sort de sa chambre en tailleur marron. Elle va au salon, prend son petit déjeuner à l'étage en dessous. Au premier étage, elle tombe sur la femme de chambre, une jeune fille dans les 25 ans. La femme de chambre lui dit « Madame est déjà levée ?»«
Oui, vous prendrez mon petit déjeuner au salon. »
La bonne lui demande « Madame ne le prend pas dans sa chambre ?» Elle lui dit,
vous savez bien que non, je ne prends jamais mon petit déjeuner dans ma chambre.
Elle lui dit, Madame devrait. Elle lui demande,
pourquoi?
Parce que Madame a besoin de repos, si elle se reposera mieux.
Et je ne suis pas malade. Allez, me chercher mon petit déjeuner.
Et elle la quitte. Elle entre au salon, va s'asseoir devant une petite table basse, ronde. Tout à coup, elle a trop chaud. Elle se lève pour aller ouvrir la fenêtre. Frappe à la porte.
Entrez!
Entre la bonne avec le petit déjeuner, café et des toasts. Elle va déposer le tout sur la table basse. Où est Charlotte?
Toujours pas de sucre?
Non, merci.
Elle la sert. Thank you.
La bonne lui dit, vous avez ouvert la fenêtre? Oui, j'avais trop chaud. La bonne lui dit, vous allez prendre froid? Mais j'ai trop chaud, nous sommes plus en hiver. La bonne lui dit, oui, mais madame a besoin de chaleur. Elle va refermer la fenêtre. Charlotte se dit, elle est complètement folle. Et la bonne sort de la pièce. Là, elle rencontre dans le couloir le maître d'hôtel et lui dit, madame est complètement toquée. Elle a ouvert la fenêtre. Nous qui allumons le feu à fond pour elle, nous qui étouffons de chaleur à cause d'elle, elle, elle ouvre la fenêtre. Le maître d'hôtel hausse les épaules et lui dit, vous savez très bien, on vous l'a dit à votre dernier stage, que les femmes riches faisaient toujours la dépression par ennui et qu'il fallait leur chercher un amant pour qu'elles se distraisent et qu'elles laissent ses domestiques en paix. Quand on est riche, on n'a plus de soucis, alors on s'ennuie et l'ennui mène à la dépression. Nous les pauvres n'avons pas le temps d'être dépressifs. La bonne lui dit, oui, lui trouver un amant, mais dans ce bled. Le maître d'hôtel lui dit, ah, pour ça, ça ne va pas être facile. Si au moins, elle aimait les domestiques, comme l'a dit Chatterley. Mais elle, elle doit aimer les rats des villes, très mondains, soirées et tout quoi. Mais ici, on n'a pas ce genre, à moins d'en faire venir un. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.